Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres haies, débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sports, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sports, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Dialogue en famille, quelle est son importance? Plusieurs chefs de famille n'accordent pas d'importance au dialogue en famille. Si pour certains c'est le manque de temps, pour d'autres c'est un problème culturel. D'après les psychologues, le dialogue en famille est très très important. Il permet aux parents de connaître les points de vue de leurs enfants sur les questions liées à la famille. Quelle est donc l'importance de ces genres de dialogue? Paul Moula, éducateur à la vie, va développer avec nous ces sujets. Nous rappelons le numéro d'appel pour vous qui nous suivez, qui êtes intéressés par le sujet. Appelez-nous au 081 890 6394 ou faites-nous un SMS au 081 711 50 01. Paul Moula, vous êtes éducateur à la vie. C'est vrai, les problèmes du dialogue en famille, c'est pas toujours évident dans plusieurs familles. C'est une espèce de dictature, comme on dit. C'est que le papa dit, qui est le chef de famille, ça reste ainsi. Personne ne peut rouspéter ou dire les contraires. Alors pourquoi faut-il un dialogue en famille entre les parents et les enfants?
Merci pour cette invitation. Je dirais que dialoguer est indispensable. Dialoguer ne peut pas être remplacé. C'est pourquoi nous disons qu'on doit parler au fond. Parler, communiquer, échanger, écouter et comprendre sont mieux que le langage gestuel. Parce que le dialogue permet de mieux se connaître, renforce la relation et on connaît bien le pouvoir de la parole. La parole est nécessaire pour comprendre les intentions et les choix de l'autre. Souvent, elle éclaire et accompagne les gestes. Le dialogue permet d'éviter les incompréhensions car les gestes sans parole sont souvent interprétés en fonction de soi et non pas en fonction de l'autre. C'est pourquoi dans une famille que nous voulons comprendre en termes congolais, un ensemble de personnes qui habitent sous le même toit, sous la responsabilité d'un ou de deux parents, exige que l'on ait de temps en temps des moments d'échange, des moments de communication verbale, des tête-à-tête qui permet de se dire ce que l'on pense, ce qui inquiète, ce qu'on peut améliorer, ou encore c'est qu'on projette.
Est-ce qu'il y a un moment indiqué ou des moments indiqués pour dialoguer en famille?
Évidemment, oui, parce que vous savez que le moment dans la communication est très capital. Monsieur rentre du travail fatigué, papa rentre du travail fatigué, préoccupé, et vous brandissez votre demande des frais, la réponse, soyez-en sûr, ne sera pas très très bonne. Maman est en train de faire sa cuisine et vous voulez lui rendre compte de ce que vous avez vécu. Il va vous entendre à demi-mot. Hein, ce sont des obstacles. Donc, il faut choisir le moment propice pour s'assurer que je suis compris et que je peux obtenir la bonne réponse. Ça fait partie des exigences de la communication en famille.
Et qui doit prendre l'initiative? Est-ce que les enfants doivent absolument entendre que le papa les invite peut-être au salon pour aborder une question? Bien, l'enfant peut profiter du moment où papa est au salon, peut-être en train de se prélasser, de s'approcher pour dire, voilà, papa, j'aimerais vous parler de tel ou tel problème.
Marcel, le rôle du destinataire et de l'émetteur n'est pas prédéfini. C'est celui qui a un problème, qui a l'intention de communiquer, qui doit amorcer la communication. Et c'est comme on voudrait dire là, que il y a les petits de 3 ans, 4 ans sont aujourd'hui capables d'arrêter papa et lui poser la question au sujet de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils veulent savoir ou de ce qu'ils cherchent comme enrichissement. Mais pour les grands-enfants, pour monsieur, pour madame. C'est l'intention de communiquer qui précède, mais le choix vient de la personne qui décide d'amorcer la communication. Papa peut être au salon. Est-ce que papa est de bonne humeur? Est-ce que papa n'a pas d'autres soucis? Est-ce que ce sont des petites questions comme ça qui permettent à celui qui veut échanger avec papa de dire, est-ce que je peux parler avec papa au salon ou lui demander de sortir un peu à l'écart pour discuter de tel ou tel sujet. Ce n'est pas seulement de papa qu'il s'agit, mais entre enfants, parfois il faut aussi s'arrêter pour échanger et réfléchir. Le dialogue concerne tout le monde, les parents comme les enfants, entre eux, ou encore les parents et les enfants, entre eux.
Et puis, Paul Mboula, qui dites-vous alors de ces familles, certainement vous l'avez déjà remarqué, peut-être entendu parler, où le papa est souvent inaccessible, c'est un monsieur toujours parti, trop occupé, les enfants passent toujours par la maman lorsqu'ils ont des problèmes, et des fois, même au niveau de la maman, on ne trouve pas des solutions, les enfants ne sont pas contents, mais n'arrivent pas à aborder directement les problèmes avec le papa.
Oui, papa est toujours parti, c'est apparent parce que maman sait à quel moment il a toujours posé son problème. Question de voir aussi du côté des enfants à quel moment on peut aborder papa et comment on peut avec lui aménager le temps d'échange. Vous savez, papa a intérêt à voir s'épanouir ses enfants et s'il n'a pas le temps pour ses enfants, tout ce qu'il fait est nul. Hein? C'est pourquoi... Si on trouve qu'il est très préoccupé, on peut, à un moment donné, lui rappeler d'abord qu'il présente une mine, il empêche les autres d'accéder à l'échange avec lui. Ça ne doit pas élever la famille. C'est pourquoi celui qui constate que l'autre n'est pas dans la disposition d'accueillir ce qu'il dit, d'échanger avec, de dialoguer, alors celui-là va amorcer l'initiative de demander un temps, de solliciter auprès de celui qui est préoccupé un moment propice que lui-même jugerait opportun de changer avec pour réaliser de temps en temps un partage pour résoudre les petits problèmes qui se posent dans la famille.
Est-ce qu'il y a des problèmes qui nécessitent absolument un dialogue rapide avec les parents, avec le papa, ou ça peut attendre? Parce que des fois, lorsque quelque chose arrive dans une famille, on pose la question de savoir, est-ce que vous en avez parlé à... Vous avez le temps d'en parler à vos parents, à votre papa? Non, on n'a pas eu le temps. Bon. Et on a beaucoup traîné avant d'en parler à notre papa. Bon, voilà, maintenant, il y a peut-être des dégâts qui viennent d'arriver. Puis, est-ce qu'il y a des problèmes dont absolument il faut... en parler rapidement avec des parents, dialoguer avec les parents plutôt que d'attendre longtemps?
Dans tous les cas, les parents étant éducateurs, ils doivent déjà pressentir les besoins de leurs enfants. Il y a des choses qu'on doit dire, non pas parce que ça pose déjà problème, mais il faut prévenir des problèmes qui peuvent éventuellement venir du fait qu'on n'a pas donné la bonne information. Regarde, aujourd'hui, les adolescents sont dans un monde où l'information est en train de circuler à très grande vitesse. Et c'est aux parents de s'arrêter à un moment donné pour partager avec les enfants, pour les écouter et appréhender un peu leur vision du monde, mais en même temps, de les prévenir des dangers qu'ils peuvent courir parce qu'on a telle ou telle information. D'autre part, il y a des moments où les jeunes eux-mêmes doivent arrêter, demander aux parents certaines informations au lieu d'aller recueillir ces informations auprès des tierces, dans la rue, auprès des pères qui éventuellement vont donner une réponse soit erronée ou à moitié fausse. Donc il y a des problèmes urgents, c'est vrai, qui sont urgents par rapport à l'éducation, parce qu'à chaque âge, il faut des ingrédients suffisants pour que l'enfant puisse traverser chaque étape. Il ne faut pas nécessairement attendre que l'enfant vienne vous poser le problème pour lui dire ce qu'il doit faire quand il va à l'école. Je vais prendre un exemple banal. Oui. Comment traverser la route? Il ne faut pas que l'enfant risque un accident pour lui dire « Attention, quand tu traverses, voilà comment tu dois faire. » C'est banal comme exemple. Mais Il y a des tas d'exemples comme ça pour lesquels il faudra une prévention au lieu d'attendre que ça soit trop tard. Et nous, en tant qu'adultes, nous savons qu'il y a tel ou tel problème qui peut arriver aux jeunes. Le jeune a, vous avez observé que le jeune a présente, surtout chez les ados, certaines transformations physiques ou psychologiques qui accompagnent son développement. C'est aux parents, parfois, de prendre l'initiative et de dire, mon fils, tu vois, tu n'es pas seul au monde à traverser cette étape, alors prends garde, voici ce qui peut arriver, voilà ce qui arrive avec l'autre sexe et qui pourrait éventuellement amener des dommages. Donc, il ne faut pas prendre de risque de faire ceci ou de faire cela, parce que ça peut entraîner des problèmes pour vous-même et pour la famille.
Voilà.
C'est quelque chose qui est urgent, qui correspond à l'âge de l'enfant, mais cela ne veut pas dire qu'il faut attendre que l'enfant vous pose des questions nécessairement pour y répondre.
Voilà, nous sommes en train de parler du dialogue en famille, quelle est son importance, avec notre invité Paul Mboula, il est psychologue, éducateur à la vie. Vous êtes intéressé par le sujet, vous avez peut-être des témoignages par rapport à ce qui se passe au sein de votre famille, pour ce qui est du dialogue dans la famille. Appelez-nous au 081-890-6394 ou faites-nous un SMS au 081-711-5001.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Freddy Kabamba nous appelle de Lubumbashi dans le Katanga au Marquis Gallo et ici à Kinshasa. Freddy Kabamba, bonjour.
Bonjour, M. Marcel et notre invité.
On vous écoute, Freddy. Quelle est votre question?
J'ai des questions à demander à notre invité. Première question. Si un enfant, si on a deux jumeaux, peut-être fille et garçon, et les enfants de deux ans, le temps de les laver, tous les deux ensemble, on les lave tous les deux ensemble, pardon. Maintenant, même peut-être un garçon ou une fille demande à sa maman, « Maman, l'autre, il demande peut-être les fesses de sa jumelle. Maman, ça c'est quoi? Comment la maman peut répondre à l'enfant ou peut dialoguer avec cet enfant-là? Deuxième question, si un garçon de 16 ans ou 17 ans, il engrosse une fille d'autrui, maintenant, il peut commencer à dialoguer avec son père ou sa maman? Et ça, mes deux questions. Merci beaucoup.
Merci, Freddy Kabamba, depuis Lubumbashi dans le Katanga. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Omar.
Bonjour, Marcel Ngombo, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup, Marcel, pour la question. Moi, j'ai un témoignage, j'en vais déposer ma question. Je suis éducateur de jeunes et défenseur de droits de jeunes. J'ai connu un cas d'une fille de 12 ans qui sortait avec un étudiant à l'ISC. Et lorsqu'on a essayé de l'interroger, elle a dit que il arrivait un moment pendant la puberté, comme vous le savez, elle commençait à avoir des désirs sexuels. Mais puisque entre elle et sa mère, les courants ne passent pas, elle était obligée d'écouter les conseils d'une grande sœur du quartier et celle-là l'a contaminée. C'était pour dire que ce témoignage a illustré les conséquences que les enfants peuvent avoir lorsqu'il n'y a pas de dialogue au sein de la famille. Mais en menant des recherches, Marcel, j'ai compris que le problème est d'ordre culturel. Nous sommes des Bantous et il est difficile à un Bantou que nous sommes de discuter surtout pour les problèmes du sexe avec sa fille ou son enfant. Alors, ma première question, c'est de savoir, l'invité en tant qu'expert, comment contrecarrer cette conjoncture culturelle où les Africains ont difficile à dialoguer avec leurs enfants? Deuxième question, à quel âge peut-on parler du sexe à sa fille ou à son fils? Et troisième question, comme je vous l'ai dit, je suis éducateur de jeunes, il m'arrive de former des jeunes et je reçois des questions de poids sensibles. Dernièrement, un jeune m'a demandé ce que ça veut dire la fellation. Ah, est-ce qu'on peut répondre à toutes les questions que le jeune pose ou il y a des questions sensibles qu'on ne peut pas répondre? Et pour finir, Marcel, quelles sont les stratégies adoptées pour les enfants compliqués? Il y a des enfants dont les dialogues ne changent pas, où il faut les fouer, par exemple, ou la punition. Alors, pour de tels enfants, quelles sont les stratégies appropriées ou idoines pour les éduquer? Voilà mes préoccupations, Marcel, et bon début de semaine à vous tous.
Voilà, merci Omar Kigalo, vous appelez de Kinshasa, Paul Moulin, vous êtes éducateur à la vie, vous avez suivi nos deux auditeurs, on commence avec Freddy Kabamba qui a appelé depuis Lubumbashi dans le Katanga, qui a posé la question de savoir lorsque vous avez deux jumeaux, il y a un garçon et une fille, vous êtes en train de les laver et puis le garçon ou bien la fille qui, pour raison de curiosité, pose une question sur le sexe de l'autre jumeau, comment, pourquoi c'est différent et comment doit-on s'y prendre, comment expliquer tout cela?
Merci Marcel, merci Freddy. Au sujet du dialogue, il faut savoir que le dialogue, c'est un entretien où les deux personnes se mettent au même diapason, au même niveau. Et, mais pour des questions comme celle de Freddy, il s'agit d'une curiosité de l'enfant qui voudrait savoir un peu plus sur le vocabulaire. Il veut s'enrichir sur le vocabulaire. Et il y a moyen de trouver dans notre culture des mots qui ne sont pas blessants, mais qui expliquent ce que la fillette est en train de demander au sujet du sexe de son jumeau. Alors, un garçon qui a engrossé une fille à 16 ou 17 ans, au fond, doit-il poser le problème ou bien le problème devait déjà être posé pendant, comme dans l'exemple de notre ami Omari, avant même qu'il n'aille avec des filles, qu'il ait des rapports sexuels qui aboutiraient à une grossesse. Mais si une grossesse est déjà arrivée, c'est évident, c'est un problème de la vie, c'est comme un échec scolaire. Quand c'est arrivé, il faudra que l'on soit capable de poser le problème, de faire face, de discuter et enfin de donner finalement, de trouver ensemble ce que l'on peut faire. Un enfant de 16-17 ans n'est pas encore mature. Il ne peut pas gérer un autre enfant. Donc un enfant ne peut pas éduquer un autre enfant. Comprenez qu'un enfant de 17 ans qui est engrossé va vous ramener un autre enfant. Il faut arriver à gérer jusqu'à ce que son père ou sa mère deviendra émancipé. Et dans l'entretemps, vous devez vous charger de les éduquer tous les deux et de faciliter la tâche à celui qui n'a pas réussi à s'émanciper, n'a pas attendu l'âge requis pour s'émanciper, à atteindre ce niveau-là avant de se charger de l'éducation des propres enfants. Donc, en ce qui concerne Freddy, je dirais que même s'il y a un problème, même s'il y a une difficulté qui surgit, le dialogue reste quelque chose que l'on doit maintenir dans la famille. Papa ne doit pas se fâcher et renvoyer l'enfant à sa mère, comme maman ne peut pas non plus abandonner son enfant en le renvoyant ailleurs. Au contraire, on doit continuer à s'occuper de cet enfant et lui montrer que parfois des choses qu'il fait dans la clandestinité peuvent amener, aboutir à des conséquences très fâcheuses et pour lesquelles la famille doit payer cher. En ce qui concerne les questions de notre ami Omari de Kinshasa, nous disons que au sujet de comment contrecarrer les problèmes d'ordre
culturel, avec tout ce qu'il y a comme présentateur culturel, oui.
Oui, il y a des problèmes d'ordre culturel, par exemple, qui tournent autour du sexe ou de la sexualité. Là aussi, nous avons des stratégies qu'on a déjà mises en place et lui doit aussi le savoir en tant qu'éducateur, que lorsque l'enfant grandit et que l'on a soi-même une vision claire de la sexualité, à chaque âge, il y a des ingrédients que nous apportons pour éclairer l'enfant sur ses préoccupations sexuelles. C'est vrai qu'au berceau, quand il est bébé et on l'habille, on le nomme, on l'entretient comme une fille ou comme un garçon, mais déjà à partir de 3 ans à 5 ans, pendant qu'il traverse la période du complexe d'Œdipe, l'enfant va poser des questions et par rapport à ces différentes questions qu'il va poser, si vous êtes franc et que vous savez trouver des mots qu'il faut pour que l'enfant puisse éclairer finalement sa vision par rapport à la sexualité, il ne va pas se culpabiliser et vous aurez un enfant qui sera épanoui du point de vue sexuel. À quel âge donc il faut commencer à parler du sexe?
Oui.
Mais déjà, l'enfant lui-même va exprimer le besoin de savoir quelque chose sur le sexe par rapport aux questions qu'il va poser. Beaucoup d'enfants, comme je viens de le dire, entre 2 ans et 5 ans, sont déjà capables de réaliser qu'il y a une distinction entre garçons et filles. Et là, il y a un problème d'identification, un problème de vocabulaire, mais aussi, plus que ça, l'enfant va par exemple poser la question d'où viennent les bébés à cet âge-là. Donc, cela déjà l'amène à imiter des modèles de personnes de son sexe. En même temps, ça va l'aider à poser des questions pour mieux comprendre pourquoi les femmes se comportent comme ça ou les hommes se comportent comme ça. C'est déjà le moment d'être vrai, parce qu'après, quand l'enfant va aller à l'école, il va découvrir d'autres réalités et il va réagir par rapport aux mensonges ou à la vérité que vous lui avez livré en famille. Et par exemple, cet enfant qui malencontreusement est tombé sur l'information fellation.
Oui.
À quel âge il se trouve? Est-ce qu'il ne faut pas répondre à cette question? Non. Sans considérer la question comme innocente et en même temps essayer de réagir pour que vous puissiez donner la réponse adéquate, vous êtes. Il faut d'abord vous calmer. Considérez que cette question est innocente. N'ayez pas de préjugés. Expliquez et ne le jugez pas trop, pour qu'il sache que la fois prochaine, si j'ai une information du genre, je peux venir la soumettre en discussion avec les parents. Donc, comme pour dire, les questions compliquées n'existent que pour les adultes qui ont plus, qui voient au-delà de la question posée d'autres questions qui pourraient être plus embarrassantes. Mais
voilà,
toutes les questions des enfants sont des questions innocent.
Mipol Moula, on revient à vous. Il y a d'autres auditeurs qui sont en ligne. Vous voulez intervenir par rapport à ces sujets sur le dialogue en famille, quelle est son importance? Nous rappelons le numéro d'appel, c'est les 081-890-6094. Nous avons également un numéro. Vous pouvez envoyer un SMS, c'est les 081-711-5001.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Kadiata nous appelle de Kananga dans le Kassai occidental. Jean-Pierre Boniface est à Kalemi dans le Katanga. Kadiata, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On vous écoute, Kadiata. Quelle est votre question?
Bon, j'ai des questions à poser à notre invité. Il y a une famille ici à Kananga où les enfants ne veulent pas quand même aider leur père de trouver quand même quelque chose à manger. Ils veulent faire aussi les choses un peu. Ils paraissent quand même en vrac. Mais lorsque le papa voulait quand même donner le conseil à ses enfants, la maman s'impose pour dire laissez mes enfants tranquilles. Quelles sont quand même quelques précautions qu'on peut donner à cette maman qui ne veut pas qu'on donne un peu le conseil à ses parents? Et deuxième question, les enfants là quand même ne veulent pas quand même obéir à leur père. Quels sont quand même les conseils que vous voulez quand même promulguer à ces enfants pour qu'ils reviennent un peu à bon sens? Merci.
Est-ce qu'on peut savoir, Kadiata, les enfants ont quel âge?
Bon, l'un a 18 ans, l'autre a 16 ans quand même.
Vous avez dit, j'ai pas bien suivi?
L'un a 16 ans et l'autre a 18 ans.
Et le papa, il peut avoir autour de quel âge?
Le papa, peut-être, il peut avoir 50 à 48.
D'accord, merci. Paul Mboula va vous répondre tout à l'heure. Merci, Kadiata. Vous avez appelé du Kananga dans le Kassai occidental. Jean-Pierre Boniface, vous êtes à Kalemi dans le Katanga. Bonjour, Jean-Pierre.
Non, pardon, c'est Jean-Pierre Boniface.
à Jean-Cy Boniface. Ah, c'est bon, allez-y, quelle est votre question, Jean-Cy Boniface?
Oui, j'ai des questions. La première question, quel est l'inconvénient de ne pas parler avec les enfants dans une famille? Et la deuxième, quels sont les sujets qu'on peut aborder avec les enfants? Et si M. l'invité peut nous donner son numéro pour le rappeler plus tard.
Merci, Jean-Cy Boniface. Depuis Calémi, Paul Mboula, on revient à vous. Vous avez suivi la préoccupation de Kadiata qui nous appelait de Kananga dans les Castres occidentales. Voilà, il y a deux enfants, il a parlé de 16 à 18 ans, et qui ne veulent pas aider leurs parents et puis la maman qui encourage ses enfants et également. Ils voulaient savoir comment on peut aborder les questions avec des adultes lorsqu'il faut faire donner des conseils aux adultes pendant, par exemple, les cas des parents, comment doit-on s'y prendre?
Oui, qui donne les conseils? Il s'agit ici, en revenant à notre sujet, quand on est adulte et qu'on doit gérer sa famille, on a intérêt à ce que l'on discute de temps en temps avec ses enfants. C'est ce que nous sommes en train de conseiller. Et si les enfants manifestent certaines préférences alimentaires et que papa veut intervenir, ou bien les oncles, les tantes, les cousins qui sont dans la famille veulent aussi donner leur point de vue, hein, c'est toujours dans ce cadre familial qu'il faut s'asseoir et choisir le moment, choisir les mots, pourvu que ça ne blesse pas, mais que ça amène les autres à adopter le comportement souhaité. Vous savez que le langage, on dit souvent que c'est source de malentendus. Si on n'y prend pas garde, on peut être mal compris et croire que cousin, oncle, tante, vous êtes venus gêner les enfants qui ont certaines habitudes et que vous voulez donner des ordres en lieu et place des parents. Vous risquez d'être mal interprété. Et pour que cela n'arrive pas, discutez d'abord avec les parents et voyez les avantages et les inconvénients de tel ou tel comportement, et eux peuvent se charger d'échanger, de discuter avec leurs enfants pour que, en fin de compte, le comportement évolue vers ce qui est promu par la société. Les enfants jeunes de 18-16 ans sont déjà capables de donner leur point de vue. Nous savons que à l'adolescence, ces jeunes sont très logiques et discutent beaucoup avant d'adopter tel ou tel comportement, même s'ils sont favorables, mais ils voudraient être éclairés. Un argumentaire scientifique suffisant doit être présenté à l'adolescent pour entraîner un changement de comportement. Parce que si on reste dans le monde traditionnel de la peur, des tabous, avec les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de chances de réaliser le changement de comportement. Les inconvénients, j'en suis, que je salue ici à Calémi, de ne pas entretenir le dialogue, c'est, au fond, c'est créer un blocage, un mur, et pousser chacun à aller dans sa direction. Comme on dit, les gestes ne suffisent pas. Vous pouvez vous énervez devant un comportement ou sourire, mais alors votre sourire ou votre colère sera plus ou moins bien interprété selon la personne si elle vous connaît, mais aussi pendant que vous avez posé cet acte, est-ce que lui est en train de mettre sur la même fréquence que vous, c'est-à-dire est-ce qu'il comprend la chose tel que vous voulez, est-ce qu'il interprète le geste comme vous le souhaitez? Sinon, c'est inconvénient, comme on dit là, de ne pas dialoguer.
Et là, il a également,
la personne risque d'aller chercher des réponses en dehors de la famille.
Et là, également demander des sujets abordés. Il a des sujets qu'on peut aborder, et d'autres non. Il voulait savoir quels sont les sujets à aborder.
Il n'y a pas de sujet tabou en famille. On doit poser tous les problèmes en famille, essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions. Si ce n'est pas immédiatement qu'on doit trouver la solution, mais du moins, on peut discuter et renvoyer peut-être un peu plus tard la solution. Mais il faut amorcer déjà le dialogue et le partage.
Voilà, Paul Mboulava.
Vous demandez mon numéro.
Mais on va le faire pour tout le monde. À la...
Bon,
allez-y, allez-y. On allait le faire à la fin de cette tranche, mais allez-y, allez-y, c'est quoi votre numéro?
Le 82-23-43-821, 82-23-43-821.
Voilà, pour tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec l'éducateur Paul Mboula, je rappelle les numéros, c'est 082-23-43-821. On va poursuivre avec Ogi Bindel, qui nous appelle de Kikui dans les Bandundu, et également Benjamin Bizouri, qui est à Bukavu dans le Sud Kivu. Ogi Bindel, bonjour.
Bonjour, Marcel Ngombo Mbala, je salue notre invité, M. Paul Mboula, qui est éducateur à la vie. Merci encore, Marcel, de m'avoir accordé la parole. J'ai quatre questions à poser à notre invité. La première, un papa qui sort le grand matin et revient trop tard. Après avoir mangé et prendre bain, il dort directement. Comment doivent faire les enfants, surtout s'il s'agit d'un cas d'urgence, à s'adresser au papa? Deuxième question, je prends le témoignage de mon voisin, de Parcelle, qui a toujours été très colérique et n'a jamais eu de bonne humeur. Alors, quelles sont les stratégies que les enfants doivent appliquer pour engager une causerie avec un tel papa? Troisième question, un homme qui a perdu sa femme et reste avec les enfants parmi lesquels se trouvent aussi les filles. C'est sans ignorer, M. Marcel, que les causeries sont simples et faciles à trouver solution entre filles et mères, comme le cas des cycles menstruels. Et maintenant, maman est absente, comment une fille peut parler sans honte sur son cycle menstruel à son papa? Et pour terminer, je voulais poser la question à notre invité, si papa peut répondre ouvertement à un enfant qui demande à son papa parce que la maman est grosse, comment est-ce que le ventre de maman augmente le volume? Papa dit parce que maman est grosse. Et il pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour que l'enfant entre dans le ventre de maman. Je ne sais pas quelle sera la réponse de papa. C'était là mes questions, Marcel. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.
Merci, Ogi Bendelo. Bon week-end à vous également. Vous appelez de Kikui dans le Bandundu. Benjamin Bizouri, vous êtes à Bukavu, dans le Sud Kivu. Bonjour, Benjamin.
Oui, bonjour, bonjour à vos journalistes, bonjour à l'éducation. Et Benjamin Bizouri, de l'Université de Kinshasa.
On vous écoute, allez-y.
Oui, j'ai quelque chose à dire à l'éducation. Bon, ça peut arriver dans une famille où il y avait des disputes entre papa et maman. Ils se sont disputés. Et quand ils se sont disputés directement, il y a des cas entre les enfants aussi qui se sont séparés. Il y a un nombre d'enfants qui est parti chez la maman. Il y a un autre nombre des enfants qui est parti chez la maman. Et alors, les enfants peuvent avoir en fait des besoins l'un après l'autre, peut-être aux côtés des mamans. Donc, là, dans le cas des mamans, il peut avoir un besoin qui est majeur, il peut demander à son père. Et le père, il sait directement que cet enfant-là est dans le cas de la maman. Comment alors cet enfant peut faire utiliser des systèmes, des stratégies pour aborder son père et que sa demande soit au moins répondue? C'est la seule question que je voulais.
Merci Benjamin Bizouri. Vous appelez de Bukavu dans le Sud Kivu. Nous avons des réactions qui nous sont parvenues également par SMS. On va découvrir toutes ces réactions tout à l'heure. Le temps pour de donner la parole à notre invité Paul Mboula, qui est éducateur à la vie, pour répondre aux préoccupations de Guy qui nous a appelé de Kikuit, hein, et également. On commence d'abord par Ogi, voilà. Qu'est-ce que vous dites à Ogi, hein, qui a dit un papa qui rentre tard et il se lave et puis il dort. Donc un papa qui n'est pas accessible aux enfants, c'est quoi la stratégie, Paul Mboula, pour tous ces papas qui ne sont pas accessibles, qu'on n'arrive pas, sur lesquels on a du mal à mettre la main?
Merci beaucoup, Ogi. En passant avec Paul Mboula, à Kikuit, salutations. Papa rentre trop tard et dort immédiatement après avoir mangé et il est inaccessible. Il est en train de passer outre le bonheur de sa famille. Pourquoi? Parce que, comprenez, que des enfants avec qui on n'a pas dialogué deviennent finalement ses propres ennemis et ils peuvent revenir avec des attitudes et des habitudes que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, il y a intérêt, quel que soit... les exigences du travail qu'on exerce, de dialoguer avec ses enfants. Et il serait recommandable de même pas avoir des enfants si vous pensez que votre travail prime par rapport à votre vie familiale. C'est une responsabilité énorme, il faut disposer du temps. Mais si vous avez un parent qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas grandi dans cette ambiance de famille, parce que ça peut arriver, et qu'ils ne soient pas habitués à parler avec les enfants. Mais vous, par votre formation, je m'adresse là à ces jeunes adolescents qui suivent le cours d'éducation à la vie, nous leur disons toujours qu'il y a moyen d'arrêter papa et de lui montrer quels sont les avantages et les inconvénients de son attitude, et particulièrement des avantages d'un échange avec ses propres enfants. Et parce que déjà, au niveau de l'école, nous disons aux enfants que si vous êtes pas avec vos parents et que vous pouvez recueillir auprès de vos parents leurs avis par rapport aux problèmes que vous vivez, ils sont capables de mieux vous aider que quiconque que vous pouvez rencontrer dans la rue. Donc, les stratégies à mettre en place pour un enfant qui a un parent difficile, c'est de voir les jours de congé, les autres jours où papa peut rentrer un peu plus tôt, ou même quand il rentre tard, si vous pouvez lui faire une petite note et lui gentil et dire « Papa, j'ai plein de problèmes que je vais vous poser, mais je n'ai pas le temps. » Éventuellement, les choses peuvent changer et les échanges peuvent être amortis.
Mais Paul Moula, on a plus assez de temps par rapport à cette tranche, mais on va faire. Vous avez fait un effort pour répondre à d'autres questions qui nous sont parvenues. Par exemple, il a parlé de sujets. Est-ce qu'un papa qui vit seul avec des filles peut aborder certains sujets avec ses enfants, avec les filles?
Oui, c'est ce que je disais à Auguste, que il n'y a pas de sujet tabou. Papa qui est veuf assume le rôle de deux parents. Comme il donne à manger, il doit aussi donner la nourriture intellectuelle et psychologique et affective dont les enfants ont besoin en lieu et place de leur mère. Oui. Rien n'est extraordinaire pour papa qui a géré maman, qui avait aussi un cycle menstruel et avec qui il discutait. Il peut aussi éclairer ses enfants pourvu qu'il trouve les mots qui conviennent.
Et
à cet enfant qui pose la question...
Sur la grossesse du ventre de la maman. Du ventre de la maman qui gonfle, oui.
Que la première question est adaptée à un enfant de moins de 5 ans, mais la deuxième question souvent n'est pas posée à 5 ans, elle est posée plus tard, vers le 9-10 ans, et le parent doit se préparer à y répondre. Les disputes de papa et de maman peuvent être mal interprétées par l'un des parents, mais ces préjugés-là, on les surmonte en rassurant papa que l'on a compris le problème. Pendant qu'on s'entretient avec lui, on doit lui montrer que dans leur dispute avec maman, ils ont vu la part de maman, ils ont vu la part de papa et qu'il y a moyen de refaire la vie familiale sans beaucoup de tracas.
Voilà, donc c'était la réponse à à l'auditeur Benjamin Bizouri qui nous appelait qui nous appelait du Sud Kivu, et on va découvrir, comme je le disais, ces réactions qui nous sont parvenues par SMS. Le dialogue est important dans nos familles avec les enfants, car certains enfants ne savent pas leur coutume suite au manque de dialogue. Surtout les riches et autorités n'apprennent pas le respect de la coutume. Ils peuvent pleurer les voisins qui est mort, mais son oncle et partenaire qui est mort, il ne pleure pas. Là, c'est Mouka Lengue qui nous écrit de Kalemi. Il y a également Charles Martin qui nous écrit de Kalemi. Le dialogue des familles est vraiment important car aujourd'hui il y a des enfants qui font la prostitution par ignorance. Il n'y a pas de conseil. Je demande aux parents congolais de commencer le dialogue, de dialoguer avec leurs enfants comme le faisaient nos anciens. Et puis Dominique qui écrit de Colouésie. Quel conseil donnerez-vous aux papas qui se comportent comme lions vis-à-vis de leurs femmes ainsi que de leurs enfants? Ça sera la dernière question.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure au sujet des disputes. J'ai dit qu'un enfant qui veut réconcilier ses parents, qui veut être bien compris par un des parents, doit choisir le moment, choisir les mots, mais en même temps démontrer qu'il a la maîtrise, il a compris le problème et qu'il peut présenter aux parents qu'il veut approcher sa compréhension du problème. Il pourra éventuellement être éclairé par sa réaction. Donc, lui ne doit pas non plus avoir une position carrée, décidée, s'il n'a pas eu la lumière de celui qui l'entretient. Et c'est dans ce dialogue-là avec papa qu'il peut voir mettre en place la stratégie qui peut permettre la réconciliation en famille. Merci beaucoup pour les interventions de nos amis qui sont à Colombie et ici à Kalemie. C'est vrai que la coutume doit être connue et être vécu pour celle qui est encore positive.
Oui.
Et l'ignorance est dissipée par le dialogue. Nous l'avons dit que dès le départ, dès le bas âge, quand l'enfant commence à poser des problèmes, habituez-vous à poser des questions, habituez-vous
voilà.
à
oui.
échanger avec lui. Vous en ferez un bon citoyen demain.
Merci Paul Moula, on va s'arrêter par là. Nous rappelons que vous êtes éducateur à la vie et vous étiez notre invité pour commenter et répondre aux questions des auditeurs sur le sujet du dialogue en famille. Quelle est son importance? Merci et bon week-end à Calémie.